Les Racines du Ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, préparée par Marie Dalquier, réalisée par Clotilde Pivin. Nous avons le plaisir aujourd'hui de nous trouver avec Clotilde et Lélie Anvar dans un lieu magique qui est situé dans le sud de la France, au sud de Valence, près de Saint-Laurent-du-Pape, à Hauteville. Et c'est un lieu de vie spirituelle fondé par Arnaud Desjardins. Et nous sommes accueillis par son fils Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Frédéric.
Alors parlez-nous un petit peu de ce lieu, parce que nous allons rencontrer dans quelques instants votre maman, Denise. C'est le principal objectif de notre voyage, pour pouvoir vivre un temps de partage avec elle, qu'elle nous raconte un petit peu sa vie assez extraordinaire. Mais déjà, vous vivez sur place dans cet ashram fondé par votre père Arnaud, il y a une vingtaine d'années. Dites-nous en quelques mots ce qui se passe ici.
Donc Hauteville est un centre spirituel, c'est un lieu d'accueil pour des chercheurs spirituels qui souhaitent approfondir leur vie intérieure. Donc la plupart des personnes qui viennent ici sont des lecteurs des livres d'Arnaud Desjardins et qui ont été touchés par leur contenu et qui ont senti « j'aimerais pouvoir aller plus loin, j'aimerais rencontrer d'autres personnes qui s'intéressent à cet enseignement et j'aimerais rencontrer des personnes à qui je pourrais poser des questions ou avec qui je pourrais faire un travail intérieur ». Donc ces personnes écrivent, on leur dit, on leur répond et puis réservent un séjour. Voilà, c'est un lieu où on peut venir, qui ne ferme pratiquement jamais. Et donc le principe, c'est que les gens viennent quand ils le souhaitent, qu'il reste le temps qui leur paraît nécessaire. Après, du point de vue financier, les personnes font des donations. Il n'y a pas de tarification. La journée commence avec la méditation du matin, puis il y a le petit déjeuner. Il y a un temps de travail où les gens font le ménage, la cuisine, du jardinage, entretien du bâtiment. Puis il y a une grande réunion où tout le monde est là, les repas. Et puis après, il y a des possibilités, ça dépend un peu selon les journées. Il y a la pratique corporelle où il y a la possibilité d'avoir des entretiens individuels, du travail en petit groupe, du temps libre aussi, du temps libre, un temps de silence. Bon, l'idée, c'est de faire une retraite, c'est-à-dire de se retrouver face à soi-même, quand même globalement dans le silence et la solitude.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric.
Je sens que vous vous sentez bien dans cet endroit, surtout qu'il fait très beau aujourd'hui.
Oui, il fait un temps absolument magnifique et c'est vrai que quand vous parlez de silence, dans cet espace qui d'habitude y est consacré, d'habitude on ne parle pas là où nous sommes en train de parler, mais nous entendons que ce silence est habité par ce bruit d'eau, que je crois qu'on entend très bien, qui rappelle à la fois les jardins d'Andalousie et enfin le sud animé par ces sources vives. Pour moi, ça représente aussi quelque chose de ce que doit être un enseignement spirituel. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des fontaines et qu'on entend ce bruit d'eau ?
Arnaud avait vraiment à cœur que le lieu soit beau, pour que les personnes, comme un cadeau pour les personnes qui viennent ici et qui ont parfois, que les personnes qui viennent ici puissent se sentir chez elles. Et en même temps, sentir, voilà, c'est un lieu qui est... C'est une famille à laquelle j'appartiens, c'est un lieu dans lequel je peux toujours revenir et qui est beau, qui est nourrissant, qui est inspirant. Voilà, après, donc il y a tout un travail à l'intérieur des bâtiments et puis un travail à l'extérieur, donc je ne pourrais pas tout vous montrer aujourd'hui, mais on a fait aussi ce qu'on appelle le jardin de méditation, où il y a deux bassins... superposé avec un ruisseau qui coule de l'un à l'autre.
Alors vous allez nous conduire maintenant vers un bâtiment justement pour qu'on puisse en découvrir un avec vous. De quoi s'agit-il ?
Alors je vais vous emmener dans un lieu où il y a, on pourrait dire, les choses les plus importantes, le cœur de la vie du lieu. Il y a le dojo dans lequel on fait la méditation et la salle de réunion. Il y a aussi une chapelle tibétaine.
Thank you. nous sommes dans un endroit absolument magnifique. À côté de la tombe d'Arnaud Desjardins, il y a un jardin de méditation. Très difficile à décrire parce que c'était une telle beauté. Donc il y a un bassin avec des carpes, des arbres partout, des roseaux. C'est au milieu de la forêt. On entend également un peu l'eau. C'est vraiment un lieu très propice à la contemplation.
Oui, et c'est vrai que c'est dans ce très vaste domaine, on va d'un lieu de sérénité en un autre lieu de sérénité. Et c'est très beau de marcher aussi pour aller d'un lieu à un autre et d'avoir le temps de méditer aussi en faisant le trajet. C'est presque symboliquement très fort en fait. Et on a aussi la chance d'avoir un soleil magnifique et des arbres dans leur sublime habit d'automne.
Alors nous poursuivons notre petit pèlerinage à Hauteville et nous allons maintenant retrouver Denise Desjardins, donc la première femme d'Arnaud Desjardins, la mère d'Emmanuel Desjardins, qui nous fait la visite aujourd'hui d'Hauteville. Et nous allons à la rencontre donc, de cette femme extraordinaire qui aujourd'hui a plus de 90 ans, je crois.
91
ans. Et nous allons pouvoir la rencontrer, même si elle ne vit pas ici d'habitude. Là, vous nous expliquez qu'elle était provisoirement là, alors qu'elle habite à côté, à cause de ses soucis de santé.
Un provisoire qui risque bien d'être définitif, étant donné que c'est quand même beaucoup plus facile de prendre soin d'elle dans ce lieu où il y a du monde et il y a souvent des personnes qui l'aiment, qui lui doivent beaucoup, qui sont de passage.
Alors nous allons à sa rencontre.
Vous m'aviez invité à dîner.
Il y a très longtemps de ça.
Ah oui, j'étais beaucoup plus jeune.
Oui, et moi aussi j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est vrai que je disais, Emmanuel, mais je crois que j'ai déjà rencontré Denise, j'arrive plus à me souvenir où. Mais ça me fait plaisir. En tout cas, là, vous êtes dans un endroit magnifique.
C'est beau.
Hein. On aime beaucoup, c'est oui. Très beau.
Et j'ai une chambre avec une vue superbe.
Et je vous présente Lélie Anvar.
Bonjour.
Bonjour.
Quel bonheur de vous rencontrer en chair et en os.
Parce que vous connaissez déjà peut-être mes livres.
Absolument. Et j'ai lu 3 fois Contre vents et années. Comme ça, je me suis promenée dans votre vie, de long en large. Et je suis très heureuse d'être aujourd'hui en votre présence pour que vous nous racontiez cette vie.
Je suis contente que vous ayez apprécié.
Oui, c'est magnifique. Et franchement...
C'est vrai, c'est la première fois que j'écris en... Genre
en
poésie.
Oui, c'est ça, mais c'est de la poésie.
C'est très bien écrit.
Et
je voulais vous dire que j'étais heureuse que vous soyez, disons, le dernier à m'interviewer avant ma mort. Je ne sais pas quand je vais mourir, mais ça peut... Vous savez que j'ai 92 ans dans quelque temps.
Mais vous allez peut-être vivre centenaire. Il y aura peut-être plein d'autres personnes qui vont venir vous interviewer.
Je souhaite que ce soit vous le dernier et que si je vis trop longtemps, vous reviendrez.
C'est très gentil. En tout cas, nous, vraiment, on est heureux de vous rencontrer pour vous nous parler de votre vie. On a du temps, donc on va...
Oui, ce que je veux vous dire, c'est que mes jambes vont mieux, mais j'ai des difficultés quelquefois avec mes oreilles. Donc, et quelquefois, j'ai une bonne mémoire, mais j'ai des trous... d'un mot qui me manque.
Je vais laisser Lélie commencer, qui a lu avec beaucoup, beaucoup de passion votre livre, commencer à un peu cet entretien.
Oui, alors peut-être commencer par le commencement, comme vous le faites vous-même d'ailleurs, c'est-à-dire non pas seulement dans l'enfance, mais peut-être avant l'enfance et peut-être même avant la naissance, puisque vous nous dites que vous n'êtes pas venu au monde juste le jour de votre naissance. Mais que, évidemment, vous êtes passé de naissance en naissance. Je sais bien que commencer un entretien si fort, c'est peut-être un peu exagéré, mais je crois que c'est très important, parce que c'est de là que vous venez.
Peut-être que je viens de plus loin, et que beaucoup de réticences que j'ai eues, par exemple, à me marier et à avoir des enfants, c'était pas seulement de la fantaisie, c'était une voix intérieure qui me serinait. Pas d'enfant pour toi, pas de, pas de mariage pour toi, et que c'était une voix qui ne venait pas d'outre-tombe, mais d'outre-naissance.
Oui, c'est ce que vous racontez, c'est que beaucoup plus tard, évidemment, vous avez fait des expériences qui vous ont fait vivre un passé, en fait, qui était d'avant votre naissance, et qui, dites-vous, a déterminé, en fait, votre vie dans ce corps-ci qui vous a été donné.
Je pense que ça fait partie des influences majeures que j'ignorais. Et maintenant, je sais pourquoi, mais seulement à l'âge de... Je l'ai su à l'âge de un peu plus de 40 ans, que quand je suis retournée en Inde, c'est comme si je retournais chez moi, un endroit que je connaissais depuis beaucoup plus longtemps que les quelques instantanés que je venais d'avoir. Mais vous savez, c'est un sujet délicat.
Oui, mais il n'y a pas de tabou dans cette émission dédiée à la spiritualité. Donc on peut vraiment parler de la spiritualité et des croyances spirituelles de l'Inde qui croient en la transmigration et qui pensent qu'on peut avoir donc des mémoires de vie antérieure. Et c'est quelque chose que vous avez revécu.
C'est quelque chose que j'avais dans ma peau sans savoir et que j'ai retrouvé grâce au maître que j'ai connu pendant et avec qui j'ai travaillé pendant pratiquement 10 ans, c'est-à-dire retrouver dans le profond de mon être des choses que j'ignorais. Mais je pense, peut-être que vous vous souvenez, que cette petite indienne, puisque vous faites appel à elle, a fini tragiquement sa vie en répétant tout le temps des mantras pour survivre et pour ne pas devenir folle. Mais quand j'ai rencontré pour la première fois Mahananda Bayi, au cours d'un entretien, ce qu'on appelait là-bas les private, elle a insisté pour me demander, à travers un traducteur, pour me demander si je ne me souvenais pas d'une phrase ou d'une parole de l'Inde. Et j'ai commencé par penser Om Tat Sat, et je lui dis, et je savais en moi-même que c'était pas cela. Et tout d'un coup est revenu le mantra que j'avais à ce moment-là, Om, et qu'elle a transformé, je ne dis pas le mantra de l'autre vie, elle l'a immédiatement transformé en quelque chose de plus court et de plus puissant, d'après elle, qui est Om Tat. Voilà. Et c'est quelque chose, quand je ne vais pas bien ou quand je suis fatiguée, je vois ce Om Tat à la respiration et ça m'aide. Je pense que ça vient de beaucoup plus loin que de ma naissance.
Alors vous racontez, je crois déjà, cette anecdote dans votre livre De naissance en naissance. Oui. Et moi, je dois vous avouer que ce livre a joué un rôle très important dans ma vie.
Je ne savais pas.
Voilà, ben je vous le dis aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde. Donc, je le dis aussi à nos auditeurs parce que c'était vraiment un moment très important de mon parcours. J'avais 15-16 ans et je marche le long du Luxembourg devant une librairie qui s'appelait la librairie Médicis. Oui. Et vous vous souvenez de cette librairie qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Et je vois en vitrine de la librairie votre livre, De naissance en naissance, et je vois le visage de Mahananda Bayi. Et là, je me suis mis à pleurer. J'ai une émotion qui m'a submergé.
C'est un symptôme.
Un symptôme, voilà. C'est un symptôme. Et du coup, j'ai acheté ce livre. Je l'ai lu. J'ai été très touché. Et après, j'ai lu quasiment tous les livres d'Arnaud Desjardins. Et j'ai eu envie d'aller rencontrer Mahananda Bayi en Inde. Et j'ai été en 82. J'arrive à son ashram à Benares. Et on m'a dit, elle est en train de mourir. Ouais. Elle ne peut pas vous recevoir. Mais en même temps, voilà, elle était encore vivante pendant quelques semaines. Et donc, vous avez joué, vous voyez, à travers l'écriture de ce livre, un rôle très important dans mon propre parcours de quête spirituelle. Et j'ai été frappé par la beauté du visage, la lumière qui irradiait de Mahananda Bayi.
Oui, même à travers les photos, même à travers les films, il y avait quelque chose de presque, disons, surnaturel et qui durait constamment. Ce n'était pas... Si, à la fin de sa vie, quand je suis allée avant qu'elle ne meure, il y avait des moments où, tout d'un coup, comme si elle n'était plus là. Et puis tout d'un coup, il y avait tout un afflux d'énergie qui revenait, et elle rajeunissait, elle était pleine de vie. C'était incroyable.
Mais dites-nous un petit peu l'impact qu'a eu sur votre vie Mahananda Mayi, parce que c'est une des plus grandes rencontres que vous ayez faites.
Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai vu à Paris un livre où il y avait une très belle et grande photo de Mahananda Mayi, je peux dire que j'ai eu un coup au cœur.
Vous aussi.
Oui. Et c'est Arnaud qui m'a présenté ce livre et cette image. Et il m'a dit, avant de me présenter la photo exacte de Mahananda Mayi, il m'a dit, on va être se marier, il y a une femme que j'aimerais toujours plus que toi. J'ai dit, ça y est, ça commence. Et quand il m'a montré ce visage et cette photo, j'ai été happée. Comme je n'avais plus qu'une idée, c'est la rencontrer. J'ai attendu d'avoir un enfant et on est allés tous les deux. Arnaud est allé avant moi et je l'ai rejoint un peu plus tard parce que je venais d'avoir mon premier enfant, une petite fille. Et j'avais le plus grand mal à la laisser à mes parents. Parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse encore une folie. J'étais réputée pour être très étrange, pas comme les autres. Et ils voulaient m'empêcher d'aller en Inde en refusant de garder mon enfant. Il a fallu que je lutte, première lutte. Et arrivé en Inde, me retrouvant à Arnaud, il me dit « C'est trop tard, on ne peut pas aller voir Mahananda Mayi. » Parce qu'elle est à Benares. Et il faut au moins une journée ou deux pour la rejoindre. Et ensuite, l'auto est en très mauvais état. On ne pourra pas rejoindre facilement la France. Je vais perdre mon boulot. Je vais perdre. On sera sans beaucoup d'argent. Est-ce que tu te rends compte? J'ai dit oui. Non seulement je me rends compte, mais j'assume tout. J'accepte. Je n'ai pas dit d'avoir faim, mais j'accepte. Que notre vie devienne inconfortable, mais je souhaite. Ce n'est même pas un souhait, c'est une urgence, c'est un élan, c'est une vision plus forte que ce que je peux sentir de moi. C'est quelque chose de comme un aimant, voilà, je trouve le mot. Un aimant que je ne peux pas réprimer et il faut absolument que j'aille la voir. Et Arnaud m'a dit. D'accord, mais on reste seulement une journée, deux jours et on part. Et quand on est arrivé en Inde, je pense maintenant rétrospectivement que la première fois que je suis allée vers Mahananda Mayi où il y avait une grande réunion, un darshan comme on dit, et que j'étais en jupe pas très courte, mais quand même tout le monde était les jambes couvertes. Les femmes en sari, j'étais gênée, je ne savais pas où me mettre, et je regardais Ma, et elle m'a regardée comme ça, et elle m'a fait signe tout de suite de venir en face d'elle, exactement à ses pieds, très très près d'elle. Et je pense qu'elle m'a reconnue. C'est audacieux de dire cela, ça n'est peut-être pas vrai, mais moi je l'ai ressenti comme quelque chose de vraiment très, très fort. Et qu'elle me donne cette permission, qu'elle me mette à ses pieds, pour moi, c'était inouï. Et je peux dire que tout le long de la réunion du darshan, je savais qu'elle nous demanderait de venir la voir, qu'elle nous demanderait si on avait une question à lui poser. Et je me demandais... Il faut que je lui pose une question. Et il y avait des questions qui venaient. Non, non. Et puis finalement, c'était le vide dans ma tête. Et tout le temps qu'a duré ce darshan, c'est-à-dire presque trois quarts d'heure au moins, elle a vidé mon esprit de toutes mes questions, de tous mes doutes. Et je me suis dit, je ne pourrais pas trouver une question, je vais passer pour une idiote. Et finalement, je me suis raccrochée à une question toute simple, comment se comporter devant son enfant. Et en effet, ça s'est passé comme je le pensais. Elle nous a appelés, Arnaud, très brillant comme toujours, a posé sa question. Et moi, j'ai posé innocemment ma question sur l'enfant. Et je dois avouer maintenant que sa réponse m'a paru d'une banalité écrasante. J'étais terriblement déçue de la question, mais très heureuse de l'avoir vue. Et elle nous a retenus au repas. Et c'est parti, la grand honneur, elle nous a envoyé les restes de son repas. Et les restes de son repas, c'était en Inde, dans une très grande feuille, on lui a apporté une feuille remplie de fruits, je ne sais pas de quoi. Si, je sais de quoi, puisque je les ai mangés, mais je ne me souviens plus exactement. Et Madame Zabahi, de cette quantité de nourriture qu'elle finalement elle bénissait, elle mangeait une cuillère, une petite cuillère. Donc nous avons eu un repas assez copieux, dehors, tout près de sa chambre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un rituel, une énorme, énorme musique. Le tam-tam, le tambour, les conques, les... Ah, c'était effrayant. Donc il y a eu une musique... soi-disant divine, mais pour moi c'était presque infernal, tellement c'était fort. Et curieusement, j'ai senti tout d'un coup que mes yeux ne voyaient plus de la même façon, qu'au lieu de voir des visages humains, je voyais des petites étoiles qui se refermaient et qui s'ouvraient, qui se fermaient et qui s'ouvraient, comme s'il y avait une... quelque chose de très énergétique dans ces étoiles. Mais je ne voyais plus les visages. Et je me suis tournée vers Arnaud, je dis, ou je deviens aveugle, ou quelque chose se passe. Et puis après, je ne pouvais plus parler. J'ai perdu donc la vision habituelle. Je n'ai plus entendu cette musique très forte, c'était fini. Et je ne pouvais plus parler. Tout ce que j'essayais de dire ne sortait pas. Et c'était comme un grand vide qui envahissait mon cerveau, disons, mon esprit. Mais ce vide, curieusement, c'était pas le néant. C'était comme si quelque chose de plus subtil le nourrissait. Et si je peux comparer ce qui va se passer par la suite, c'est comme si une grande énergie, mais très très fine, presque un éclair, montait du bas de mon bassin jusqu'en haut de la tête, et que c'était véritablement fini. Et j'ai cru un instant que c'était la mort, mais ce vide ne me faisait pas peur, c'était quelque chose de très... plein d'une énergie très subtile, beaucoup plus subtile que l'énergie que nous mettons à marcher, chanter, exister. C'était quelque chose d'éthéré. Je ne peux pas le dire. Mais en tous les cas, ça n'était pas négatif. Ce n'était pas du tout le néant, mais c'était comme si mon esprit était un... comment dire ? Une sphère un peu entourée de quelque chose de sombre. Si je peux donner une image qui donne une idée de ce que j'ai prouvé, c'est très difficile de le rendre, vous voyez. Et puis, petit à petit, j'ai repris la faculté de tous mes sens, un à un. Et là, une des suivantes de Madame Damaï m'a demandé de venir la voir, de venir voir Madame Damaï. je ne pouvais ni parler, ni bouger. Ce n'était pas possible, je ne pouvais même pas lui répondre. Et tout d'un coup, j'ai retrouvé la vue et j'ai vu Manon Dabaï elle-même qui venait vers moi. Et ça m'a empli d'une sorte de joie. C'est plus que de la joie, c'est plus que du contentement. C'est un bouleversement total. Et c'est elle qui a lavé mes yeux, qui a frotté mon dos et qui m'a redonné un sens à ma vie. Et elle a demandé qu'on m'emmène devant le temple, où je suis restée un long moment. Et j'étais pleine d'amour pour tous ceux qui m'entouraient. C'était ce qu'elle m'avait transmis, que je n'ai pas pu vous dire tout à l'heure, cette qualité incroyable d'amour inconditionnel. Et c'était probablement très palpable, puisqu'une mère, je regardais son bébé qu'elle avait sur les genoux, cette femme a ressenti l'amour que j'ai badé, et spontanément, elle a mis son bébé sur mes genoux, ce qui est archi incroyable qu'une femme indienne mette sur une inconnue son bébé. Mais moi, rien ne m'étonnait. J'étais tellement envahie de cet amour inconditionnel que Manon Dabaï m'avait transmis. Mais c'est maintenant que je dis cela. Mais à ce moment-là, je me sentais simplement pleine de non-séparation, si vous voulez. Il y avait une forte unité intérieure, et cette unité se répandait à l'extérieur.
Que désirais-je, enfant, sinon l'amour et les soins des parents et de l'entourage ? Plus tard, continuer à être aimé m'obnubilait. Il me fallait correspondre à l'image démesurée qu'il se faisait de moi, avec l'effort que cela pouvait demander. Sagesse, obéissance, contrôle. Plus tard, d'autres désirs ont pris place, se précisant, se multipliant, avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. L'école, l'émulation plus ou moins grande, les déboires et les punitions éventuelles. En somme, un dressage adouci ou non par l'amour reçu. Le désir, moteur de l'existence, animait ces différents moments. L'âge de l'enfance, de l'adolescence, puis l'âge adulte. Une force de vie comme un flux continu, une force qui obligeait à l'action, même si parfois on était contraint, malgré ses réticences, ses hésitations, ses convictions, de causer du tort à d'autres. À l'image de l'exubérante floraison d'un buisson ou d'un arbre donnant des fruits à profusion, les désirs continuaient à bourgeonner et proliférer. Créer une œuvre, en être à profusion louangée, rechercher l'élégance de sa vêture et celle d'un lieu de vie où coule le fleuve, toujours la beauté à l'extérieur et l'intérieur du logis, comme celle des objets qui l'ornent et en rehaussent le charme. Toujours plus de recherches créatives, toujours plus de décors. Terre cuite créée de ma main, sur certains murs et la cheminée, centre symbolique de la maison. Détails choisis, réfléchis, mûris, afin d'être entouré de ce que j'aimais, un lieu où je pourrais me sentir à l'aise et être reconnue en tant que femme, en tant qu'artiste et créatrice. Le désir d'être reconnue n'est qu'un succès d'année de celui d'être aimée.
Alors, puisque vous parlez de cette renaissance et de cet éveil spirituel, revenons peut-être à votre naissance. Donc, c'est l'occasion de revenir sur votre parcours avant, parce qu'effectivement, dans votre livre, vous parlez des douleurs et des peurs que vous avez eues aussi enfant. Et on se posait la question avec Lélie, est-ce que c'est pas ça qui a été à la source, cette faille, cette fragilité, cette blessure qui était à la source de votre soif spirituelle?
Il y a eu un incident quelque temps, à peu près quand j'avais entre 4 et 6 mois. Et je pleurais beaucoup. Et c'était le dernier enfant qu'avait porté ma mère. Et elle a, disons, un geste pour me faire taire. Pour me faire taire, elle a serré ma gorge. Voilà. Et que moi, je n'attendais que de l'amour, que de la compassion, que de la consolation. Et toute ma vie, il y a eu cette soif de retrouver l'amour qu'elle m'avait donné pendant les premiers mois. Et je pense que quand j'ai vu Manon Damaï, c'est cet amour qu'elle m'a donné. Si vous voulez que je fasse le lien, c'est cela. Mais je peux vous dire que cet incident, c'était très très fort pour moi. Et quand je l'ai retrouvé avec Swami Prajnapad, j'avais déjà Emmanuel à mes côtés qui avait... Attendez, il avait 3-4 ans, quelque chose comme ça. Je ne suis pas bonne pour les chiffres. Mais à la fin de ce qu'on appelle le laïng, c'est-à-dire une introspection très très profonde, j'étais très décontenancée, très abasourdie, hors de moi, si je puis dire. Et je voyais Swamiji qui marchait de long en large, et la seule chose qu'il ait dite, c'était « too much », c'est trop fort pour un bébé. Enfin, c'est moi qui traduis comme ça, « too much ». Et moi, j'attendais qu'il vienne me consoler, qu'il remplace cet amour dont j'avais besoin, qu'il le redonne, qu'il me le donne. Mais il continuait à marcher. Et puis à un moment, il a arrêté, il m'a regardé, il est venu vers moi. Et je me disais, il va me consoler. Mais il s'est penché vers moi, toujours pas de consolation. Il a pris ma main, je me pensais, il va me consoler. Il a regardé ma main. Il faut vous dire que j'avais tellement revécu la scène que mon cou saignait. J'avais tellement serré qu'il y avait du sang qui coulait. Et Swamiji l'a vu, il a pris ma main, il a regardé, je disais, ça y est, il va me consoler. Il m'a dit, il faudra vous couper les ongles. C'est tout ce qu'il a dit. C'était pragmatique, utile, mais c'est pas ce que j'attendais. Mais c'était aussi le style de Swamiji, à la fois d'être d'une générosité, d'un amour incroyable, mais en même temps d'une sévérité, d'une vérité, d'une pragmatique, c'est tout ce que je peux dire. Et là, il a été plusieurs fois dans la 16 que j'ai parcourue avec lui, au moins 2 fois.
Et est-ce que ça veut dire, cet enseignement, qu'au fond, il ne faut pas toujours attendre que les autres puissent nous apporter la consolation qu'on n'a pas eue enfant? Est-ce qu'il ne faut pas la trouver à l'intérieur de soi?
C'est exactement ce à quoi je ne m'attendais pas, mais ce que voulait signifier pour moi Swamiji. Et il l'a fait 2 fois. Et si vous voulez qu'on continue sur ce thème, je veux bien. Il a été une fois beaucoup plus cruel pour moi. C'était à Ashada, en Inde. J'étais venue de France pour passer à peu près un mois et demi. Je ne pouvais pas laisser plus longtemps mes enfants. Et j'avais fait beaucoup de travail déjà avec Swamiji. Et bien sûr, quand on commençait un entretien, je mettais le front au sol, ce qu'on appelle le pranam. Et Swamiji, en signe d'accord, on peut dire d'amour, presque de bénédiction, mettait sa main sur ma tête. Ce qui voulait dire que j'étais acceptée et qu'on allait commencer à travailler. Mais un jour, il n'a pas mis sa main sur ma tête. Alors je me suis dit, il va la mettre demain. Demain, rien du tout. Il va la mettre 3e jour, rien du tout, 4e jour, 5e jour, 6e jour, jamais. Et j'allais de tristesse en tristesse, et surtout de culpabilité. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour ne plus recevoir cette bénédiction, ne plus avoir la main de Swamiji sur ma tête comme les autres fois. J'étais véritablement presque désespérée. Et puis est arrivé le jour de mon départ pour Paris. Et je pensais, là, il mettra sa main. Mais il ne l'a pas mis. Il ne l'a pas mise. Et je suis partie avec ce désespoir. Je regardais le train venir qui me faisait presque peur parce que j'allais rejoindre Arnaud et Emmanuel qui étaient tout petits à ce moment-là. Et quand je suis arrivée à Delhi pour rejoindre Arnaud et le petit Emmanuel, j'avais 42 fièvres. C'était pour vous dire à quel point le choc m'avait perturbée. Et Arnaud a fait venir un médecin qui voulait me hospitaliser. Il me dit, vous avez le foie très gros. J'ai jamais de la vie, je ne veux pas aller à l'hôpital. Demain, je retourne voir mal en Amélie et reprendre ma fille qui est dans une pension religieuse. Pas question. Et c'est un médecin hindou. Il m'a dit, puisque votre esprit est plus fort que votre corps, je ne m'oppose pas. En tous les cas, j'étais mal en point. Et plusieurs mois après, Arnaud a demandé à Swamiji, quand il l'a vu, qu'est-ce que vous avez fait à Denise pour qu'elle soit dans cet état? Et il a dit, a little putsch, un petit poussé. Comment traduire?
Une bichenette, un petit coup.
Ça ressemble un peu aux méthodes des maîtres zen qui donnent parfois un coup de bâton pour éduquer leurs disciples.
C'était un sale coup de bâton.
Souvent, vous dites que sa méthode était dure.
Il était plein de tendresse, plein d'amour. Il m'a, le premier entretien que j'ai eu avec lui, il m'a témoigné beaucoup, beaucoup de prévenance, d'attention. Et surtout, il a été le seul à comprendre combien ça avait été difficile ce voyage avec un bébé de 3 mois. Personne ne comprenait, ni le médecin, ni Arnaud, je dois le dire, ni mes parents. Et pourtant, j'avais fait vraiment beaucoup d'efforts tout le long de ce voyage pour préserver mes 2 enfants. Il y en avait une qui avait 6 ans et demi, ou 7 ans, je ne me souviens plus, et lui, 3 mois. Donc, il a reconnu, et il m'a dit, une femme, après son accouchement, a besoin de au moins 9 ou 10 mois de repos. Et vous êtes partie 3 mois après. Et le seul compliment qu'il m'ait jamais fait, c'est que j'étais courageuse.
Un intellect épuré, acéré, associé à une aisance naturelle, une souplesse d'adaptation pour passer de la contemplation à l'action, qui me rappelle son conseil. Soyez fluide comme l'eau. Conseil dont il donnait chaque fois un exemple éclatant, preuve d'une fluidité et d'une clarté intérieure, toutes deux exceptionnelles. Ainsi était Swami Prajnampad. Tel Shiva, le destructeur, il s'appliqua d'abord à me montrer l'inanité de l'attente, de l'espoir et des fausses convictions qu'il engendrait. Espoir d'un amour absolu, croyance qu'il était possible de le vivre, conviction qu'il s'attachait ensuite à détruire comme étant illusoire. Impitoyable et généreux, destructeur et compatissant, sévère et compréhensif, ainsi était Swami Prajnampad. Et même déboussolé, je devinais un but inconnu jusqu'alors, une purification de ce qui m'empêchait d'évoluer. Même parfois détruite, je sentais venant de lui un amour bien plus vaste que ce que je pouvais concevoir, ressentir, éprouver. Sortir de mes conditionnements, d'un ego étriqué, d'influences ignorées jusque-là, tel était le travail, l'effort qui m'incombait. Swamiji jetait un éclairage définitif sur l'obscurité psychique qui cachait l'origine de mes comportements. En m'aidant, sans que j'en sois consciente, à ne pas sombrer dans les tempêtes de l'esprit lorsque fut mis au jour l'origine de mes souffrances, un événement trop dur pour un tout petit bébé dont le souvenir avait été complètement occulté, comme étant trop pénible à voir, à découvrir. J'y réagissais par une forte détermination et par une révolte qui surgissait parfois avec une force incompréhensible pour les autres et aussi pour moi-même, un ego renforcé par peur d'être blessé. D'où les multiples tentatives de Swamiji qui, tout en affirmant que l'ego n'était qu'une chaîne de causes et d'effets sans existence réelle, consacra beaucoup de temps à s'occuper de mon petit ego afin d'abolir ma croyance en sa solidité et ma conviction de sa permanence. Rétrospectivement, qu'est-ce que vous avez tiré de cette exigence et de ces expériences un peu difficiles que vous avez eues? Quel a été l'effet spirituellement positif pour vous? Vous en avez tiré une leçon?
Oui. Il a essayé de m'apprendre un peu le détachement. Il a essayé de ne plus... Et par la suite, il m'a dit, ce que vous avez ressenti avec moi, cet attachement que vous avez reçu, que vous avez eu à mon égard, vous l'avez avec tous les êtres que vous rencontrez, et vous avez toujours besoin d'être reconnu, toujours besoin d'être aimé, toujours besoin d'être adopté, si je peux dire. Et c'est pour vous détacher de cela que j'ai eu cette... façon d'agir avec vous, sans ça vous y seriez encore. Et je peux dire que je croyais à l'amour absolu. Et que quand j'ai vu Ananda Mayi, j'ai dit ça c'est l'amour absolu. Mais l'amour absolu, ce n'est pas possible entre deux êtres qui sont tous les deux dans le relatif. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc il a été fort, il a tapé fort pour que je sois un peu plus détachée. Et maintenant, je reconnais qu'il a eu raison, parce que toute ma vie, j'ai recherché l'amour absolu. Et si ça n'était pas l'amour absolu, comme j'ai commencé ma vie en étant peintre, je voulais être connue, avoir du succès, faire des expositions, avoir des critiques qui... Beaucoup je cherchais non pas l'admiration, mais la reconnaissance.
Ça, c'est un point commun que vous avez avec Arnaud, très fort. Lui aussi recherchait la reconnaissance, avait besoin d'être admiré, d'être connu. Donc, est-ce qu'on peut dire...
Je ne peux pas parler de ça.
Bon, moi, je l'ai très bien ressenti comme ça. Et donc, je pense que vous êtes retrouvé dans à la fois ces blessures, l'un et l'autre, qui fait que vous aviez besoin de reconnaissance, et en même temps, cette soif spirituelle qui vous amenait à chercher un dépassement de vous-même. Donc, quel a été... Je dirais, est-ce qu'à votre avis, pour être dans un chemin spirituel, dans une soif très grande de progression, etc., il faut avoir au départ une blessure quelconque qui fait qu'on a besoin de se dépasser ou qu'on a besoin d'être connu peut-être dans la spiritualité pour ensuite arriver à s'en détacher? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un moteur, je dirais presque névrotique?
Vous avez raison. Je vais vous parler d'une parole de Swamiji. Et il disait que une enfance où il y avait eu des coups durs, c'était une inclinaison, c'était un très bon terrain pour, pas la spiritualité, mais l'intériorité. Donc il disait souvent qu'une enfance difficile, c'était que ça faisait des adultes qui avaient des dispositions pour une vie intérieure et pour une recherche intérieure. Et donc, à la fois, ce geste de ma mère, ça a été horrible, mais à la fois, je reconnais maintenant que ça a été une bénédiction. Mais vous savez, Swamiji a mis 5 ans pour me réconcilier avec elle.
Que désirais-je, enfant, sinon l'amour et les soins des parents et de l'entourage? Plus tard, continuer à être aimé m'obnubilait. Il me fallait correspondre à l'image démesurée qu'il se faisait de moi, avec l'effort que cela pouvait demander. Sagesse, obéissance, contrôle. Plus tard, d'autres désirs ont pris place, se précisant, se multipliant, avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. L'école, l'émulation plus ou moins grande, les déboires et les punitions éventuelles. En somme, un dressage adouci ou non par l'amour reçu. Le désir, moteur de l'existence, animait ces différents moments. L'âge de l'enfance, de l'adolescence, puis l'âge adulte. Une force de vie comme un flux continu, une force qui obligeait à l'action, même si parfois on était contraint, malgré ses réticences, ses hésitations, ses convictions, de causer du tort à d'autres. À l'image de l'exubérante floraison d'un buisson ou d'un arbre donnant des fruits à profusion, les désirs continuaient à bourgeonner et proliférer. Créer une œuvre, en être à profusion louangé, rechercher l'élégance de sa vêture et celle d'un lieu de vie où coule le fleuve, toujours la beauté à l'extérieur et l'intérieur du logis, comme celle des objets qui l'ornent et en rehaussent le charme. Toujours plus de recherches créatives, toujours plus de décors. Terre cuite créée de ma main, sur certains murs et la cheminée, centre symbolique de la maison. Détails choisis, réfléchis, mûris, afin d'être entourée de ce que j'aimais, un lieu où je pourrais me sentir à l'aise et être reconnue en tant que femme, en tant qu'artiste et créatrice. Le désir d'être reconnue n'est qu'un succès d'année de celui d'être aimée. Alors vous avez de très beaux passages dans votre livre sur à la fois le désir et le détachement, dans lequel vous montrez à quel point l'histoire de toute votre vie, c'est une histoire de désir qui vous a poussé vers l'avant. Et à chaque fois, dans chaque nouvelle étape, vous avez dû vous détacher de ce qui était votre désir. Vous avez parlé justement, par exemple, de la première période, qui est celle de la peinture, de Paris, etc.
Oui.
Et vous avez vécu une vie... Voilà,
mondaine.
Oui, enfin mondaine, mais vous faisiez aussi une œuvre quand même créative.
Oui, mais je travaille... Vous savez, j'ai beaucoup travaillé la peinture. J'ai commencé le dessin à 8-9 ans, la peinture à 10-12 ans, et après, c'était une époque terminée. Quand je me suis mariée, j'ai eu des enfants, ça a été une bascule de ma vie, une bascule très forte.
Oui, et vous le dites aussi d'ailleurs pour les enfants. Vous dites en réalité, au début, vous n'aviez pas de désir d'enfant, puis vous avez eu ce désir qui est en même temps impérieux, nécessaire, puisque voilà, la vie continue. Et en même temps, une fois que les enfants sont là, vous passez à autre chose. Et on a vraiment l'impression que tous ces êtres qui vous ont enseigné, particulièrement, évidemment, Swami Prajnapad et Mahananda Mahi, mais d'autres dont vous parlez, ce sont des êtres qui vous ont à la fois appris le désir et le détachement, et que votre vie, finalement, c'est ça, c'est un cheminement dans le désir et le détachement.
Oui, mais c'est aussi nécessaire d'avoir des étapes différentes. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'était nécessaire. Mais si vous voulez, la peinture, c'était une passion pour moi. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai fait une quantité de tableaux assez abondante, disons. J'ai cherché le succès et je le reconnais. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont déçu dans le milieu artistique. C'était le besoin de dépasser les autres. Chacun veut être le meilleur, déclare être le meilleur. D'ailleurs, j'avais un peintre que je connaissais très bien, il avait le même âge que moi à peu près, et il disait « je suis le meilleur ». Il déclarait à tout le monde « je suis le meilleur ». Mais on finissait par le croire. Mais ça me paraissait abominable de parler ainsi, d'une certaine façon de vouloir écraser les autres. Et c'est ça qui a commencé à me détacher. Et puis, vous savez, je considérais la peinture comme un peu une méditation. Je restais très longtemps immobile, silencieuse, avant de commencer un tableau. Et par la suite, j'étais toujours très, très attentive à ce que il n'y ait pas de, comment dire, de côté trop superficiel dans mon être quand j'œuvrais. Hein.
Vous avez un chapitre qui s'intitule « La beauté » dans votre livre « Contre vents et années ». Et ça, moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'avant même d'avoir compris que votre soif était une soif spirituelle et d'intériorisation, vous aviez saisi par instinct que la beauté pouvait vous mener à cette intériorisation.
C'est vrai que j'étais fascinée par la beauté. C'était quelque chose qui m'attirait beaucoup et que j'essayais tant bien que mal, à ma petite mesure, de rendre sur une toile ou sur un dessin. Et je n'étais jamais satisfaite véritablement. Mais j'ai aussi compris que ce besoin d'intériorisation que j'avais avant de peindre pouvait être remplacé par ce qu'on appelle, par la suite, ce que j'ai appelé ainsi, méditation ou contemplation. Et qu'il y avait dans tout ce que j'essayais de peindre, il y avait une part de contemplation. Je suis à ce moment-là. C'est Étienne Martin, le sculpteur que vous connaissez de nom probablement, qui est mort maintenant, qui m'a mis dans les mains un enseignement inconnu. Donc les groupes Gorgiev m'ont très très accroché par deux choses. Il parlait du rappel de soi, pour moi c'est la vigilance, c'est la même chose. Ça c'est une chose très très importante, l'intériorisation donc. Et puis ils avaient une méthode à côté de mouvements, ce qu'ils appelaient des mouvements qui étaient inspirés de certaines danses, des revues tourneurs parfois. Enfin, c'était l'école, le Gorgiev, qui avait sa notoriété à ce moment-là. Je n'ai pas connu Georges. Je me souviens plus de son nom. Enfin, je ne l'ai pas connu. On l'appelait toujours Monsieur Gorgiev. C'est comme ça que je l'appellerais. Mais les successeurs transmettaient justement cette attention. Et les mouvements qu'ils enseignaient et développaient beaucoup l'attention. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire certains mouvements n'importe comment. Il fallait soit avoir une sorte de méditation, il y avait des grandes prières. Je sais parce que quand ils ont filmé, ils m'ont demandé d'être au centre, parce que paraît-il, quand je faisais cette prière, il y avait quelque chose qui passait. Donc je sentais en moi qu'il y avait ce besoin de tranquillité intérieure, de lumière intérieure, d'éclairage intérieur, si je puis dire. Et évidemment, quand j'ai vu Manon Zavahi, elle était d'une beauté surnaturelle.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre conversation avec Denise Desjardins. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.